En novembre 2018, la France accordait le statut de réfugié politique au Chilien Ricardo Palma Salamanca. Aujourd'hui, l'ancien opposant général Pinochet raconte son histoire sombre et violente, rocambolesque et cruelle.
Au long, la piste audio des grands récits de Society. Une architecture coloniale, d'étroites rues pavées, des bâtisses aux façades multicolores, San Miguel de Allende ressemble à un Mexique rêvé. À moins de 3 heures de route de la capitale Mexico, on y retrouve le bouillonnement culturel et l'ambiance festive qui caractérise le pays aztèque dans l'imaginaire collectif, mais sans la violence endémique qui le paralyse. C'est sans doute pour cette raison que dans ces grandes haciendas, on retrouve aussi bien de riches retraités américains que de grandes fortunes mexicaines. Dans cet environnement privilégié inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les restaurants et les galeries d'art pullulent. Elles ont donné naissance à une petite communauté qui vit en vase clos. Esteban Manuel Solis Tamayo n'était pas inconnu de ce microcosme culturel. À San Miguel, il était cet homme discret mais charismatique qui se baladait partout avec son petit appareil photo et que l'on sollicitait pour venir couvrir les événements culturels. Au milieu des écrivains, des galeristes et des acteurs, il était de toutes les fêtes, de tous les vernissages, mais sans jamais accaparer l'attention. Dans son cercle de connaissances, tout le monde savait également que sa présence à une fête garantissait la venue des plus jolies filles de la ville. Le photographe, qui s'exprimait avec l'accent chilango si particulier des gens de la capitale, avait le charme intense des hommes qui parlent peu de leur histoire. Si peu qu'on a souvent tendance à leur imaginer un destin exotique. Cependant, personne ne se doutait qu'Esteban ne s'était jamais appelé Esteban, qu'il n'était pas mexicain et qu'il était recherché par Interpol depuis plus de 20 ans. Disparu du jour au lendemain de San Miguel au mois de mars 2007, le discret quadragénaire est réapparu, comme par magie, l'an dernier, en février 2018. Il venait d'être arrêté à Paris.
Imagen video grabada de Ricardo Palma Salamanca hoy reapareció. El autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards debía ser notificado por la justicia francesa de la solicitud de extradición en su contra. Para el 10 de octubre quedó agendada la audiencia en que se verá su futuro judicial.
En réalité, Esteban Solis Tamayo s'appelle Ricardo Palma Salamanca. Pour le Chili, il est même El Negro, l'ancien guérillero le plus célèbre du pays. Un homme en cavale depuis le 30 décembre 1996. Selon la justice de son pays natal, Ricardo Palma, à l'époque âgé de 20 ans, aurait participé aux assassinats de 4 personnes pour le compte du FPMR, et donc considéré comme un révolutionnaire qui lutta contre la dictature du général Pinochet. Dans l'ordre des meurtres qui lui sont reprochés, celui de l'ancien commandant de l'armée de l'air Roberto Fuentes, qui a séquestré et assassiné plusieurs résistants durant le régime. Celui du colonel Luis Fontaine, responsable de l'enlèvement et de l'égorgement de 3 communistes. Celui de Victor Valenzuela, garde du corps de Pinochet. Et surtout, celui du sénateur Jaime Guzmán, l'un des idéologues de ce qui restera l'une des pires dictatures du XXe siècle. Palma aurait également participé à l'enlèvement et à la séquestration pendant 45 jours de Christian Edwards, fils du milliardaire Augustin Edwards, propriétaire d'El Mercurio, le quotidien conservateur qui a œuvré au coup d'État de 1973, portant Pinochet au pouvoir. Pour ses actes, tous commis entre 1990 et 1991, Ricardo Palma Salamanca a été condamné en 1992 à 2 fois la perpétuité par la justice chilienne. Mais aujourd'hui, Ricardo Palma Salamanca est un homme libre. Le 2 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, lui a accordé l'asile politique. La demande d'extradition formulée par Santiago a été définitivement rejetée par la justice française le 23 janvier dernier. Depuis, il n'est plus hors la loi, mais il reste méfiant. De ses 22 années de cavale, Palma a conservé quelques habitudes. Il nous attend, posté aux abords d'un kiosque à la sortie du métro Saint-Mandé. Poignée de main froide, visage fermé, casquette baissée au niveau des yeux et son éternel appareil photo en bandoulière. Plus tard, assis dans un café du quartier, il écoute attentivement, réfléchit et accepte de raconter son histoire à la condition de ne pas évoquer directement les actes pour lesquels il a été condamné. Et surtout, de restituer son destin dans le cadre d'une histoire plus large, celle d'une génération née à la fin des années 60 et qui a œuvré, d'une manière ou d'une autre, à la chute de l'une des dictatures les plus féroces de la fin du XXe siècle.
Le jour même de son anniversaire, le jour de ses 83 ans, le général Augusto Pinochet a pris connaissance de la décision des chambres des lords, de la Chambre des lords anglais. Ceux-ci ont confirmé la légalité de l'arrestation de l'ancien dictateur chilien le 16 octobre dernier, sur requête de la police espagnole, pour répondre de crimes commis alors qu'il dirigeait la junte militaire au Chili.
Pour l'histoire officielle, le régime d'Augusto Pinochet s'est arrêté en mars 1990, moment où le général a passé la main au démocrate chrétien Patricio Aylwin. Cela signifie que les faits pour lesquels Ricardo Palma Salamanca a été condamné ont été commis en démocratie. Mais comme souvent, la réalité est plus complexe. Aylwin a été élu par les urnes, certes, mais sous la constitution imposée par le dictateur et rédigée par son idéologue, le sénateur Guzman. Et il a fallu attendre de longues années avant que l'appareil répressif de la dictature ne soit inquiété. Augusto Pinochet, en personne, a été général en chef de l'armée jusqu'en 1998, puis sénateur à vie, jusqu'à sa mort en 2006. Quant à la constitution qu'il fit élaborer en 1980, elle est aujourd'hui encore en vigueur. À travers l'histoire de Ricardo Palma, ce sont toutes les zones d'ombre de l'histoire récente du pays le plus prospère d'Amérique latine qui se dévoilent. Palma naît en 1969 à Santiago. Et ironie du sort, c'est à l'hôpital de la police où il sera plus tard persécuté qu'il voit le jour. Son père est membre du GAP, l'escorte personnelle du président socialiste Salvador Allende. Les années de l'unité populaire, Palma ne les a pas vécues, mais il a entendu ses parents en chanter les louanges. Il faut dire qu'il avait 4 ans au moment du coup d'état de Pinochet. Comme beaucoup de familles de gauche, les Palma passent les années 70 entre la crainte de la répression et la nostalgie d'Allende. Ses sœurs, qui prennent part au mouvement étudiant de protestation, sont arrêtées puis torturées au début des années 80. Au lycée, Ricardo a pour amis et camarades de classe des garçons et des filles qui vivent dans la même bulle que lui. Celle des quartiers de Providencia, Unuona, où vit une petite bourgeoisie érudite aux idéaux marqués à gauche. C'est à la sortie du Latino Americano de Integración, l'établissement où il va en cours, que surviennent en 1985 l'un des cas les plus emblématiques des violations des droits de l'homme qui sévissent alors au Chili. José Manuel Parada, père de l'un de ses camarades, et Manuel Guerrero, l'un de ses professeurs, tous deux sympathisants communistes, sont enlevés par un commando. On retrouvera leurs corps égorgés le lendemain sur un terrain vague à côté de l'aéroport de Santiago. Quelques mois avant cet événement, Palma a intégré les Jeunesses communistes qui fonctionnent comme une sorte d'antichambre au Frente Patriótico Manuel Rodríguez, le FPMR, le bras armé du parti créé pour lutter contre la dictature et la faire tomber par le biais de la guérilla urbaine. Depuis sa naissance, le Frente a réussi quelques coups d'éclat. Il jouit d'une mystique de lutte frontale qui fait fantasmer. À l'époque, ceux qui luttent contre la dictature sont un peu les rockstars du lycée.
Figure de la trahison des militaires contre le pouvoir et d'une répression féroce qui a fait plus de 3000 morts, Pinochet a, aux yeux du monde, incarné l'une des plus violentes dictatures d'Amérique latine.
Mais au Frente, n'entre pas qui veut. Le mouvement est réservé à la fois aux plus déterminés et aux plus doués. Il y a même une sorte de recrutement, un peu comme au football. À la fin de l'année 1985, le jeune homme participe à une semaine de détection et de formation sur les plages de la côte pacifique. Entraîné par des militants aguerris ayant participé à la révolution sandiniste ou ayant suivi des formations à Cuba et au Vietnam, il est, avec son ami Claudio Salinas, le seul retenu parmi la grosse vingtaine de participants. Convaincu d'avoir le sens de l'histoire avec lui, Palma entre en résistance. L'une de ses premières missions consiste à poser et à faire exploser une bombe sous l'estrade où le ministre de l'Éducation doit prononcer un discours sur la privatisation de l'université afin de contraindre le pouvoir à annuler la conférence. Ensuite, il participe à des sabotages. Il agit sous des alias, s'appelle Marcos ou Raphaël. Ce sont des années de joie et d'insouciance. Pour le Frente, 1986 est l'année décisive, celle où le général Pinochet doit tomber. Le 7 septembre, une embuscade est dressée sur la route montagneuse qui relie la résidence secondaire de Pinochet à Santiago, la capitale. Une vingtaine de guérilleros armés de M16 et de lance-roquettes M72 Low attaquent le convoi présidentiel. 5 gardes du corps périssent, mais Pinochet s'en sort indemne. Un coup d'épée dans l'eau, comme un chant du cygne. Les responsables sont traqués. Ceux qui ne sont pas exfiltrés à temps à l'étranger sont, dans le meilleur des cas, torturés et emprisonnés. Dans le pire, assassinés. Après cet échec, le Parti communiste chilien décide en 1987 d'abandonner la lutte armée pour se concentrer sur la voie politique. La scission avec le FPMR qui, lui, décide de poursuivre le combat est inévitable. Tandis que le PC s'allie à tous les partis d'opposition dans l'optique du référendum de 1988 qui doit décider du maintien ou non du général Pinochet au pouvoir, le Frente intensifie la lutte armée. Il ne croit pas un seul instant à la possibilité d'une sortie négociée de Pinochet. À la place, il opte pour une stratégie de soulèvement rural, sorte de bouillon de culture maladroit de toutes les expériences révolutionnaires latino-américaines des décennies précédentes. Les rebelles quittent Santiago pour le maquis et s'apprêtent à créer des foyers insurrectionnels dans les petits villages. En un mot, à faire leur Sierra Maestra comme le Che et Fidel 30 ans plus tôt. Sauf que la guerre patriotique nationale qui doit débuter n'aura pas lieu.
Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno.
Le 5 octobre 1988, le Chili vote contre Pinochet. Surprise, le dictateur reconnaît sa défaite et accepte de rendre le pouvoir en mars 1990. Malgré ce changement de script, le Frente décide de suivre sa ligne. C'est un désastre. Pendant que le pays entier, lassé par des années de violence, fête la fin de la dictature, les leaders du front, la commandante Tamara, 32 ans, et le commandante José Miguel, 30 ans, sont torturés et assassinés à Los Quenes, au pied de la cordillère des Andes. Ils laissent l'organisation exsangue. Aujourd'hui, Rodrigo Piccolo Hidalgo, ancien ami et compagnon de lutte de Ricardo Palma, explique la débâcle du Frente. Certains cadres n'y croyaient plus, d'autres sont partis vivre à l'étranger, et ils ont continué à envoyer des jeunes à la boucherie. C'était des opérations mal planifiées, avec peu de ressources. Beaucoup de jeunes d'à peine 20 ans sont morts dans des attaques commanditées par des chefs qui en avaient à peine 30. Ricardo Palma Salamanca convient qu'ils étaient encore des enfants dans un contexte où il aurait fallu faire des choix d'adultes. En mars 90, quand Pinochet cède pour de bon le pouvoir au démocrate chrétien Patricio Aylwin, le jeune guérillero s'interroge. Doit-il continuer à affronter cet ennemi devenu flottant, invisible, alors même que le pays entier souhaite la paix? Ou bien reprendre ses études de photographie, puis étudier ensuite le cinéma? Cela fait trop de questions. Ricardo Palma décide finalement de continuer la lutte, pour ne pas trahir ceux qui sont morts, dit-il aujourd'hui. Et surtout, parce que les coupables n'ont pas été punis. Près de 30 ans plus tard, il assure que la lutte armée était le seul instrument dont il disposait, mais qu'il n'a jamais aimé la violence, ni tout ce qui entourait la lutte. S'il avait pris un autre chemin, Palma serait sans doute devenu écrivain, réalisateur, restaurateur, comme les autres jeunes qu'il fréquentait, mais qui n'ont pas opté pour la guérilla. Au cours des années, il a vu ses amis d'enfance devenir des personnes normales, étudier, se marier, faire des enfants. Dans le même temps, ses camarades du Frente sont devenus de moins en moins nombreux, de plus en plus étranges et paranoïaques au fil de leur débandade. Il voulait continuer une guerre qui était terminée, explique-t-il, avant de s'engouffrer dans le métro et de mettre fin à ce premier entretien. Dans son livre « Les bandits », L'historien marxiste Erich Hobsbawm explique qu'un conflit armé qui se termine sans processus politique de réintégration à la vie civile condamne plus ou moins à la délinquance les anciens combattants. C'est ce qui est arrivé à Rodrigo Piccolo Hidalgo. En 1990, l'ancien camarade de lutte de Ricardo Palma tombe pour trafic de stupes et braquage à main armée, même si lui continue d'appeler cela des assauts urbains pour financer la lutte. Ce qui revient à mettre des jolis mots sur des braquages purs et simples. Dès lors, les résidus de la lutte contre la dictature sont devenus une meute de chiens errants sans vision. Et un événement vient acter définitivement cette marginalisation. Le 1er avril 1991, Jaime Guzmán, sénateur, est attendu par deux hommes armés à la sortie de son cours de droit constitutionnel à l'Université Católica. Il est abattu de sang-froid. Si les assassinats d'anciens tortionnaires avaient été accueillis avec une certaine clémence par l'opinion publique les mois précédents, celui de Guzmán est unanimement condamné. Parce que l'homme était un élu de la République, parce qu'il était sans défense au moment de sa mort et parce que son meurtre s'inscrit à contre-courant du climat de l'époque. Surtout, pour beaucoup, Guzmán était le garde-fou de la dictature. Celui qui l'a empêché d'être plus sanguinaire. De là à présenter comme un homme de paix celui qui fut le principal conseiller politique d'une dictature féroce, il y a un pas. Adoré par la droite conservatrice, honni par la gauche, Guzmán, qui a un mémorial à son honneur à Santiago, est encore aujourd'hui le symbole des divisions d'un pays bipolaire. Pour beaucoup, le Chili est resté bloqué dans le passé. Les gens cohabitent mais se détestent, car les architectes du coup d'État et de la dictature sont également ceux de la sortie de la dictature. Il n'y a pas eu de processus de réconciliation. 1991 est, quoi qu'il en soit, l'année qui fait basculer la vie de Ricardo Palma Salamanca. À l'époque, la police ne le connaissait pas. Il aurait pu revenir à une vie normale. Mais en septembre de cette année 1991, le fils du milliardaire Augustin Edwards, propriétaire du quotidien conservateur El Mercurio, est enlevé par le FPMR. La police est sur les dents. C'est alors que Ricardo Palma est dénoncé et clairement présenté comme impliqué dans l'assassinat de Guzmán et l'enlèvement d'Edwards. La donne change. Alors que Christian Edwards finit par être libéré, Ricardo Palma, au même titre que d'autres camarades, doit être exfiltré à l'étranger par le Frente. Mais son organisation, lasse de ses états d'âme, l'abandonne comme un chien au bord d'une aire d'autoroute. Au point de ralliement convenu, personne ne l'attend et il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, alors qu'il est chez l'un des membres de sa famille dans la banlieue de Santiago, il repère des mouvements suspects autour de la maison. Il décide alors de suivre la procédure normale prévue en pareil cas. Il saute dans le premier bus en direction du centre-ville. Dans le bus, une femme s'installe devant lui et un type corpulent s'assoit à côté de lui. À un moment donné, la femme se lève, se retourne et pointe une arme sur sa tête. Le costaud lui attrape les mains. Un fourgon blanc sans plaque attend dehors. On lui couvre les yeux, on lui met une capuche. Il prend un coup de crosse dans le cou. Torturé pendant une semaine au siège de la police, Palma avoue les crimes qui lui sont reprochés. Il est ensuite condamné par le juge Pfeiffer à plusieurs peines de perpétuité. Il est placé dans l'aile des malades mentaux dans une première prison, puis transféré dans une seconde où on l'enferme au sommet d'une tour. Alors qu'ils doivent être transférés vers une troisième prison de haute sécurité, Palma et quelques autres tentent de s'évader, pour la beauté du geste et parce que plus grand-chose n'a de sens. À la prison de haute sécurité, Palma retrouve d'autres camarades du FPMR, et notamment son supérieur, le commandant Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena à l'état civil, qui vient de tomber, dénoncé par une taupe. Une bonne nouvelle pour Ricardo. Il se dit que maintenant que le chef a été fait prisonnier, ce qu'il reste de l'organisation va faire en sorte de le libérer. Banco. Pendant un an, avec l'aide de collaborateurs étrangers, le Frente planifie la libération des siens. Doivent sortir Ramiro, Ricardo Palma, mais aussi Patricio Ortiz, surnommé Chan en raison de sa passion pour les arts martiaux, et Pablo Munoz. À l'intérieur, les quatre hommes se préparent. L'évasion se fera par les airs, c'est le seul moyen possible. Tous les jours, ils jouent au football et se retrouvent à 17h dans la cour où l'hélicoptère devra les récupérer. Un rituel immuable. « À l'extérieur, Raúl Escobar, commandante Emilio, un autre guérillero du Frente, est en charge de l'opération. Il engage une entreprise touristique pour un survol en hélicoptère de la région de Santiago. À bord, 5 touristes, dont les sœurs Shannon, qui sont en fait militantes de l'IRA. En vol, les Irlandaises font semblant d'être malades, contraignant le Bell 206 Long Ranger à se poser. Le pilote de l'hélicoptère est alors immobilisé et conduit menotté dans une maison des environs. Les faux touristes sont remplacés par un commando du Frente. Le 30 décembre 1996, vers 17h, l'hélicoptère survole la prison de haute sécurité de Santiago du Chili. Alors qu'il stationne au-dessus de la cour, un grand panier en Kevlar est lâché à l'endroit où Palma et ses comparses ont posé un seau jaune. Les 4 guérilleros doivent monter dans le panier tandis que les occupants de l'hélicoptère font feu pour couvrir leur évasion. Le panier est fait pour 4 occupants, à condition qu'ils se positionnent exactement comme prévu. Mais au moment où le pilote commence à élever l'hélicoptère, il y a une mésentente et Mauricio n'arrive pas à monter dedans. Il doit sauter et s'y suspendre. Quant au pilote, au lieu de continuer à s'élever, il avance et Mauricio se prend le mur et manque de tomber. Finalement, il fait 20 km accroché comme ça, à 400 mètres d'altitude, à un panier qui tourne dans tous les sens. En bout de course, l'appareil se pose sur un terrain de football de banlieue. Une voiture attend les fugitifs. S'il est plus diffus sur certains passages de sa vie, Palma se souvient parfaitement de tout le déroulé de cette journée, durant laquelle, tient-il à préciser, personne n'a été blessé. L'évasion devient immédiatement mythique. Les jours suivants, tandis que la police du pays tout entier est mobilisée, les guérilleros regardent les informations à la télévision depuis leur planque, une grande maison confortable de la capitale. Ils attendront 2 mois que les choses se tassent avant de quitter le pays. Mais il n'en dira pas plus. Tout juste concédera-t-il que ce fut d'une manière si particulière, si dramatique, si bizarre, que cela restera un secret gravé pour toujours.
Leí una corta estadía en la cárcel de alta seguridad de tan solo 4 años, que terminó abruptamente con la cinematográfica fuga que en 58 segundos lo dejó fuera del penal y del radar de las autoridades chilenas que desde 1996 le seguían sus pistas, entre otras cosas, para que cumpliera las 2 cadenas perpetuas que hay en contra de él.
Les premiers temps de sa cavale, El Negro se déplace de pays en pays. Cuba, Salvador, Nicaragua, Argentine. Depuis Buenos Aires, il écrit un livre sur la fuite du siècle qu'il envoie par courrier à un éditeur, ainsi qu'une carte postale à sa mère qu'il signe Richard Kimball, le héros de la série Le Fugitif. Pour finir, il coupe les ponts avec tout le monde. Cette fois, la lutte est terminée. Dans le même temps, ses compagnons d'évasion s'éparpillent. Patricio Ortiz s'installe en Suisse, où il demande et obtient l'asile. Pablo Munoz s'évanouit dans la nature sans laisser de traces. Personne n'aura plus jamais de ses nouvelles. Ramiro, lui, ne se résout pas à la fin de la lutte. Celui qui voulait continuer la guerre universelle du monde s'installe dans la jungle colombienne où il forme à la guérilla des militants locaux de l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. Tombé en 2001 à San Paolo pour l'enlèvement de l'homme d'affaires Washington Oliveto, Ramiro purge aujourd'hui une peine de 30 ans au Brésil. Aux alentours de l'an 2000, Ricardo Palma Salamanca pose finalement ses valises au Mexique. Sa compagne, Sylvia Brzovic Pérez, une ancienne du Frente, l'y rejoint. Il a tout juste 30 ans, un âge qu'il ne pensait jamais atteindre, et est devenu papa. Sur leurs documents officiels, ils sont désormais Esteban Solis et Ramon Guerra. Pas de chirurgie esthétique, en revanche, Palma et sa femme doivent devenir vraiment mexicains s'ils veulent passer inaperçus. Bien conscient que la partie la moins crédible de son personnage est son accent, l'ancien guérillero passe son temps dans les taquerias et les cantinas où il essaie de copier l'attitude et la manière de parler des locaux. Il lit des livres en argot mexicain et s'inflige des heures de telenovelas. À part les 3 ou 4 personnes qu'il salue dans la rue, il n'établit de relation avec personne pendant de longues années. Pour payer son loyer, Palma répare des ordinateurs, une compétence qu'il a acquise sur le tas et qui l'autorise à être taciturne sans éveiller les soupçons. Un jour qu'il traîne à côté du terrain de football près de la station de taxi, il demande s'il peut jouer. Les gens qui jouaient sont des maçons, des plombiers. C'est là qu'il apprend comment parlent les vrais Mexicains. En 2007, Alors qu'il vient de se séparer de sa compagne et qu'il fréquente une petite amie mexicaine, il estime que son personnage est désormais rodé. À San Miguel, Ricardo Palma devient réellement Esteban Solis. Encore aujourd'hui, quand il s'exprime, il est quasiment impossible de déceler chez El Negro une trace de l'accent si particulier des natifs de Santiago. Ses enfants, eux, grandissent avec la conviction d'être des petits Solis. Ils attendront des années pour que la vérité leur soit révélée par leur mère. Au Mexique, avec un ami argentin, Palma se rend régulièrement dans le désert pour y consommer du peyote et y rencontrer les Indiens Huichols. Une expérience dont ils feront un documentaire. Pleinement intégré à la vie culturelle foisonnante de San Miguel, Palma collabore en tant que photographe et journaliste à Espiral, une revue ésotérique et altermondialiste créée par Ramón Guerra, aka Raúl Escobar, l'homme qui l'a fait s'évader de prison et qui s'est établi dans la même ville. Il fréquente la galerie d'art de son ex-femme, qui a refait sa vie avec un célèbre peintre mexicain. En somme, Ricardo Palma mène une vie pas très différente de celle qu'il aurait pu avoir au Chili s'il n'avait pas grandi sous Pinochet et décidé d'embrasser la lutte armée. Raúl Escobar, lui aussi, participe à cette vie culturelle foisonnante, mais semble avoir plus de mal à couper les ponts avec son pays natal. Quand il est saoul, il raconte à qui veut bien l'entendre l'histoire glorieuse de la résistance au général Pinochet et vante les mérites de ces quatre guérilleros qui ont fui la prison en hélicoptère. Et ce qui menaçait d'arriver arrive. En ce mars 2017, Raúl Escobar est arrêté par la police. Palma n'a d'autre choix que de fuir et reprendre ses habitudes de clandestin. Avec son ex-femme et leurs enfants, ils partent à Cuba. Il apprend alors que son compatriote et ancien compagnon est suspecté de l'enlèvement crapuleux d'une citoyenne franco-américaine, Michelle Kendall. La presse mexicaine évoque même un réseau mafieux international composé par des ex-militants de l'ETA espagnol et des guérilleros chiliens, une sorte de multinationale du crime anciennement révolutionnaire qui aurait procédé à de multiples enlèvements et terrorisé San Miguel. Quelle que soit la vérité, au Mexique, les Chiliens ont laissé derrière eux pas mal de questions en suspens. Les gens qui ont côtoyé les anciens guérilleros pendant presque 20 ans dans la ville élue plus belle au monde en 2017 et 2018 ont la sensation douloureuse d'avoir été bernés. Le 14 juin dernier, Raúl Escobar a été condamné à 60 ans de prison par l'État du Guanajuato. Interrogé sur la possible culpabilité de son ancien camarade et sur la porosité entre la lutte armée et le crime, Ricardo Palma ne répond pas frontalement, comme s'il voulait condamner sans passer pour un traître. Lui dit qu'il n'a rien à voir avec ça, et aussi qu'il ne voulait pas d'une énième fuite.
Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, agradeció a todos quienes lo apoyaron durante el proceso judicial que rechazó su extradición desde Francia.
Il se dirige alors vers la France, où son ex-femme a de la famille, parce qu'ils estiment que c'est le pays le plus susceptible de leur accorder l'asile politique. Arrivés à Roissy, ils se rendent immédiatement aux autorités françaises. Le 5 novembre 2018, Ricardo Palma Salamanca et Silvia Brzovic Pérez ont officiellement obtenu l'asile politique de la part de l'OFPRA. Jamais quelqu'un qui fait une demande et qui a été condamné pour assassinat n'avait obtenu le statut. Palma, qui était défendu par Maître Mignard, un proche de l'ex-président François Hollande, estime que tout l'enjeu de sa défense était de convaincre que ce procès qu'il avait condamné au Chili était vicié et que l'appareil juridique en vigueur à l'époque était encore celui de la dictature de Pinochet. Ce qui revient, une fois de plus, à refaire le procès de la Transición. Est-ce pour cela que le gouvernement chilien, furieux, a tenté par tous les moyens d'obtenir l'extradition de Palma? Que le président Piñera, qui a construit sa fortune économique sous le régime de Pinochet, a tenté d'intervenir en personne? Le rejet de la demande d'extradition, le 23 janvier dernier, passé totalement inaperçu en France, a déchaîné les passions au Chili. La droite, héritière de Pinochet, a même appelé à rompre les relations diplomatiques avec l'Hexagone, alors que l'extrême gauche, qui vit encore avec des affiches jaunies de Salvador Allende, a fêté la décision comme une victoire en finale de Coupe du Monde. Des lycéens, qui n'étaient même pas nés à l'époque de son arrestation, ont tagué le nom de Ricardo Palma Salamanca sur les murs de Santiago. quand son vieux frère d'armes, Patricio Chan Ortiz, a pu rentrer au Chili en février dernier après 20 ans d'exil en Suisse, il a déclaré à son arrivée à l'aéroport de Santiago, sous les drapeaux agités par ses groupies, « J'ai été, je suis et je serai du Frente ». Pour célébrer son statut d'homme libre, Ricardo Palma, lui, s'est contenté d'aller boire un coup discrètement avec son comité de soutien qu'il a accueilli en chantant l'hymne du Frente. Même s'il ne fait plus partie du FPMR, même si cette partie de son histoire est derrière lui. Peut-être est-il tout de même un symbole, celui d'un combat, puis d'une dérive dont ne subsistent aujourd'hui que des morts, quelques survivants éparpillés aux quatre coins du monde et des souvenirs amers.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.